Allô, Jésus était la véritable lumière, une lumière pure, parfaite. Et il a éclairé les hommes avec une lumière puissante. Cette lumière, elle était composée d'une multitude de photons, des particules élémentaires, et dans ces particules, il y avait de la grâce, la vérité, le pardon et un amour gratuit. Et pourtant, cette lumière dérangeait au point que Jésus a été crucifié entre deux brigands. C'est pour ça qu'il y a trois croix. Jésus était au milieu et de chaque côté de Jésus, un autre condamné. Pourquoi ? Parce qu'il dérangeait à la fois les autorités romaines et aussi et surtout les autorités juives. Et comme les Romains voulaient absolument la paix, à tout prix, ils étaient prêts à sacrifier un condamné, même s'il était innocent. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et on lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, ceci. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, chef religieux, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, « Sauve-toi toi-même !» Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Au pied, j'ai oublié d'avancer, je pense, au pied de cette croix, il y avait un public mixte. Il y avait ces soldats, des fonctionnaires de l'État, tout simplement, ils faisaient leur job. Et là, ils s'entrevoient une petite pause. « Tiens, on va jouer au dé, on va tirer au sort sa tunique. » Et ces gens n'étaient pas vraiment innocents, hein, mais ils n'avaient pas le même statut que les Juifs. C'était simplement des fonctionnaires qui faisaient leur travail et qui répondaient à Rome. Et à ces gens-là, Jésus les regarde et il leur dit, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais dans ce public, il y avait aussi des gens comme vous et moi, des badauds, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui s'attroupent lorsqu'ils entendent un bruit, comme vous en voyez dans la rue. Et vous voyez une sorte de spectacle, mais là, c'était un spectacle particulier quand même. Trois hommes pendus sur une croix. Et je me suis dit, mais finalement, on pourrait trouver ça horrible de voir à une exécution aussi horrible qu'une crucifixion, et que les gens restent comme ça, à regarder. Le texte dit bien, ils regardaient, point, rien d'autre. Je me suis dit, si Jésus était crucifié en 2026, ces gens-là, ils auraient pris leur téléphone et ils auraient filmé. Comme ils l'ont fait à Crans-Montana, quand les autres étaient en train de sortir de l'horreur, en fait, d'une fournaise. Ils filmaient, des spectateurs. Et puis, il y avait des Juifs. Eux, des chefs religieux. Les chefs religieux, eux, ils raillaient Jésus. Et le texte dit même littéralement, ils blasphémaient. C'est-à-dire qu'ils se moquaient de Jésus. Ils ricanaient en voyant quelqu'un agoniser sur une croix. Vous imaginez le spectacle ? Vous vous voyez rire devant quelqu'un en train de mourir, même si c'est votre pire ennemi ? Eh bien, c'est ce qu'ils faisaient. Et eux, Jésus ne leur dit pas, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi ? Parce qu'eux, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils voulaient sa mort. Ils avaient vu ces miracles. Et pourtant, ils avaient attribué ces miracles à Belzébuth, au diable. Ils faisaient des miracles extraordinaires, ils faisaient des guérisons, ils chassaient des démons. Ils donnaient à manger aux pauvres, il a multiplié des pains, même des poissons. Ils le savaient. Et pourtant, ils l'ont rejeté. Crucifie-le, ils ont dit. Crucifie-le. Et ils ont obtenu gain de cause. À ceci, Jésus ne dit pas, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient tout. Et ils l'ont fait crucifier. Et aussi, autour de cette croix, au pied de cette croix, il y avait des proches de Jésus, des amis de Jésus. Il y avait, on sait qu'il y avait Marie, sa maman, et même l'apôtre Jean, parce que dans un des évangiles, pas celui de Luc, mais un autre évangile, Jésus, alors qu'il agonise, regarde encore ses amis et dit à Jean, « Prends soin de ma mère, prends soin d'elle. » Et donc, il y avait aussi des amis au pied de cette croix. Donc, vous voyez, un public vraiment varié. Et ce n'est pas un hasard, parce que là, on va assister à une conversation unique qu'on ne trouve que dans l'évangile de Luc. La crucifixion est relatée dans les quatre évangiles, mais chacun y amène une petite touche. Et là, on assiste à un discours, les amis, hyper important, celui des trois brigands. Et regardez ce qu'on lit à la suite. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi, excusez-moi, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Vous avez vu, le premier brigand rejette Jésus. Il se moque ouvertement de lui, il le provoque même. Luc dit qu'il l'injuriait. Injurier quelqu'un, c'est quand même pas rien. Surtout dans la posture où il était quand même, hein. On ne doit pas en mener large, normalement, quand on est crucifié. Vous vous imaginez condamné à mort ? Vous la ramenez encore ? Ça ne te suffit pas ? Eh bien, lui, si. Il continuait, et il injuriait Jésus, il se moquait de lui, il le provoque même, hein, si t'es Dieu, ben alors décroche-toi, et puis viens nous sauver. Vous voyez, c'était de l'arrogance, hein. Ce n'est pas une demande ici, c'est vraiment de l'arrogance. Cet homme était orgueilleux. En fait, ce brigand était coupable. Il était coupable de quelque chose de grave parce qu'on ne condamnait pas n'importe qui à la croix. Il était coupable devant la loi des hommes, mais il était encore plus coupable devant la loi de Dieu. Mais il n'était pas prêt à le reconnaître. En revanche, vous avez vu que l'autre condamné n'a pas du tout la même réaction. Et c'est lui qui m'intéresse en fait, parce que c'est à lui qu'il est fait une promesse extraordinaire. Est-ce qu'il était meilleur que l'autre ? Probablement qu'il avait fait les mêmes délits, peut-être même pire. Mais il n'a pas du tout la même attitude. Et donc, ce que j'aimerais relever ici, c'est trois étapes pour être avec Jésus au paradis. Trois étapes que l'on voit au travers de ce dialogue entre Jésus et ce brigand. La première de ces étapes, alors excusez-moi, j'en suis là, voilà. La première étape, c'est qu'il reconnaît son état de pécheur. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? En fait, cet homme, il a beau être sur cette croix, il craint Dieu. Alors peut-être que c'est assez subi, hein. C'est peut-être depuis quelques heures qu'il y réfléchit, parce que ça ne prend pas 5 minutes de crucifier. Il y a beaucoup d'étapes avant, notamment la flagellation. Peut-être qu'il ne l'a pas subi lui, on ne la faisait pas subir à chaque fois, mais régulièrement. Et quand même, la crucifixion posait l'homme par terre, sur un patibulum déjà, donc un bois horizontal, et on clouait au niveau des poignets. C'était extrêmement douloureux. Parfois on attachait, mais Jésus, on sait qu'il a été crucifié. Donc on suppose qu'eux aussi ont été crucifiés, peut-être pas, peut-être qu'ils étaient simplement attachés. En tout cas, il était quand même sur une croix et la durée de vie n'était pas très longue. Mais par contre, ça montre une chose, c'est qu'il n'était pas là pour rien. Il n'était pas là pour rien. Parce que lui, il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Mais vous avez vu l'attitude différente, c'est que lui, il ne se cherche pas des excuses. Il ne rejette pas ses fautes sur quelqu'un d'autre ou sur des circonstances malheureuses. sur quelqu'un qui l'aurait poussé à agir dans cette direction. Vous vous rappelez d'Adam et Ève ? Vous connaissez bien cette histoire. Vous vous rappelez ce qu'Adam a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait, Adam ? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il a repoussé la faute sur quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, on se dit, Ève, elle était fantastique. Elle n'était pas mieux que lui. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ève ? C'est pas moi, c'est le diable ! Vous voyez ? Et en fait, on a souvent cette attitude. Ici, cet homme reconnaît ses torts. C'est déjà une bonne chose, les amis, reconnaître qu'on est pécheur. Et vous avez vu ce qu'il dit au verset 41 ? Pour nous, c'est justice, c'est mérité. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Vous voyez ? Donc, il reconnaît sa culpabilité. Il reconnaît qu'il n'est pas mieux que son collègue. Il reconnaît qu'il a aussi commis des crimes. Et vous voyez, c'est quelque chose que l'on observe chez cet homme, qui est différent de l'autre. Les gens qui étaient condamnés, c'était soit des esclaves, soit des gens qui n'étaient pas des citoyens romains. Donc eux, ils avaient un privilège. Ils n'étaient pas crucifiés parce que c'était horriblement douloureux et ça durait longtemps. Par contre, excusez-moi, j'ai avancé trop vite. Donc c'était les gens qui n'étaient pas citoyens romains qui pouvaient être crucifiés. Eux, ils avaient juste la décapitation. Mais c'était beaucoup moins douloureux. Et puis il y avait les rebelles et les insurgés. C'était tous les gens qui étaient accusés par l'autorité de Rome. Et là, les Juifs avaient considéré Jésus comme un roi et donc comme un blasphémateur. Et quelque part, c'était une insurrection pour eux. Et puis il y avait, là c'est plus probable, plutôt le brigand criminel. C'est celui qui était l'un des deux, ou voire les deux. Donc ils étaient dans ces quatre candidats. D'accord ? Donc ils avaient fait des choses pas terribles quand même. Mais cet homme, à la différence de l'autre, il assume les conséquences de ses actes. Il reconnaît son péché et il reconnaît que son péché et le sort qu'il a aujourd'hui, être crucifié, c'est mérité en fait. Il sait qu'il est en train de payer l'addition du péché. Et c'est une addition salée, la crucifixion, parce que ça fait mal et parce que ça dure longtemps. On agonise littéralement et c'est pour ça que les gens ne voulaient pas être crucifié. Mais en fait, il prend conscience d'une chose, c'est que, en fait, on doit tous passer à la caisse divine un jour ou l'autre. Et la Bible est très claire à ce sujet. Lui était probablement juif, c'est pour ça qu'il était d'ailleurs sur la croix. On n'aurait pas condamné un Romain, donc probablement qu'il était juif et probablement qu'il a entendu et qu'il a vu ce que Jésus a fait. Pour qu'il reconnaisse tout ça, il avait forcément vu quelque chose. Mais regardez ce que la Bible dit. Elle dit, alors j'ai mis les références ici, elle nous dit qu'on va tous comparaître en jugement, un jour ou l'autre. Que chacun devra rendre des comptes personnellement. Elle dit encore pire, c'est qu'on est déjà condamné. Si on ne croit pas au Fils de Dieu, on est déjà condamné. On l'a vu ce texte il n'y a pas si longtemps, dans Jean 3. Et Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est l'addition. C'est l'addition qu'on paye à un moment donné. Et lui, il dit clairement, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue, en fait. Et si on meurt aujourd'hui, et si je pense que tout le monde va mourir ici, je suis même sûr, c'est qu'on est pécheur, tout simplement. C'est l'addition finale. Mais avant, et c'est ce que dit Jésus, on peut avoir une touche d'espérance. Vous voyez ? Cet homme, le brigand sur la croix, est mort. Mais il est mort de manière physique. Mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose parce que Jésus lui promet qu'il sera en haut avec lui dans le ciel pour l'éternité. Mais pourquoi je dis que c'est une dette qu'il a envers les humains parce qu'il avait fait du mal, mais il a aussi une dette envers Dieu. Quand on a fait du mal aux humains, eh bien, si on se fait attraper, il y a des conséquences. Imaginons que vous soyez vraiment en colère. Et donc, vous allez exprimer votre colère. Imaginons que ce soit votre voisin. Vous lui donnez un coup de poing. Okay ? Dans le pire des cas, il vous le rend. Sinon, ce qui va se passer, eh bien, vous allez peut-être avoir une amende ou un petit rappel à la loi. Okay ? Mais maintenant, imaginons que vous mettiez le même coup de poing, mais à un policier. Donc, un policier, un douanier, tiens, vous n'êtes pas content, boum ! Ah, les conséquences seront un petit peu différentes, hein. Je pense que vous irez faire un petit séjour en prison, peut-être quelques jours, quelques heures, mais vous passerez par la case prison. Maintenant, si vous tapez le même coup de poing, mais à Poutine ou à Trump, je pense que là, vous allez faire un séjour beaucoup plus long en prison. Je monte. Kim Jong-il. Si vous mettez un coup de poing à cet homme, qui est le dictateur coréen, vous finirez toute votre vie en prison, probablement même que vous serez exécuté, parce qu'on ne touche pas à Sa Majesté. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer si vous mettez un coup de poing à Dieu, qui est infiniment saint? C'est un petit peu ce qu'on fait quand on se rebelle contre Dieu ou qu'on ne veut pas de lui. C'est quoi les conséquences? Bien, les conséquences, c'est une éternité loin de lui. Mais il y a une touche d'espérance ici. Parce que là, c'est la mauvaise nouvelle jusqu'ici. Hein. C'est la mauvaise nouvelle, mais il faut passer par cette case. Reconnaître notre culpabilité devant Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur. Mais pas seulement. Il faut reconnaître aussi qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Et c'est ce qui se passe ici. Et c'est le deuxième point. Il reconnaît la justice parfaite de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 41. Celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. Eh bien oui, il n'a rien fait de mal. Et il le savait. Il savait que ce Jésus qui était crucifié, c'était injuste. Et tout le monde le savait, en fait. Bon, les Romains, ils devaient ignorer ces choses-là. Mais les Juifs le savaient. Les Juifs le savaient. Et ils l'ont fait condamner. Enfin, les chefs religieux, en tout cas. Pas tous les Juifs, hein. Je ne veux pas embarquer tous les Juifs ici. Mais en tout cas, les chefs religieux le savaient, c'est eux qui l'ont fait condamner. Mais vous voyez, quand ils regardent Jésus, ils voient quelqu'un de juste. De juste. Quelqu'un de parfait. Et malgré tous les bruits qu'il y avait autour de lui, toutes les personnes qui se moquaient et qui raillaient Jésus, eh bien lui, il avait une position en disant « Non, 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 cet homme-là, il est véritablement juste. » Et vous savez qu'il y a même un soldat romain qui a dit « Cet homme-là était réellement le Fils de Dieu. » Même un soldat romain l'a vu. Vous savez pourquoi? Quand Jésus était sur cette croix et qu'il a regardé ses bourreaux et qu'il leur dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qui est capable de faire ça? Moi, j'en suis pas capable. Je pense pas que vous en seriez capable aussi. Quand on est crucifié comme ça, horriblement, d'une manière innocente, on a envie de crier notre innocence. J'ai rien fait! Eh bien, Jésus dit rien. Jésus dit rien. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez dire ça? Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Il n'y avait qu'un homme juste qui pouvait dire ça. Un homme parfait. Quelqu'un qui était au-dessus des autres. Et c'est ce qu'il faut commencer à reconnaître. Et c'est la deuxième étape. Il voit en Jésus l'homme parfait, l'homme qui incarne une justice parfaite, un homme rempli d'une grâce extraordinaire qu'aucun homme ne peut avoir. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est qu'il remet sa vie entre les mains de Jésus. Et c'est ça, c'est placer sa confiance, en fait. Quand on remet notre vie entre les mains de Christ, de Dieu, eh bien, c'est la foi. Parce que le gars qui était à côté de lui, c'était une pièce de boucherie, en fait. C'était un morceau de viande qui sanguinolait, qui avait été lacéré par des coups de fouet, qui avait une couronne qui lui avait brisé toute sa peau, et donc les larmes coulaient, enfin les larmes, pas les larmes, mais le sang coulait sur son front et sur toutes les parties de son corps. Il était à plaie ouverte, Jésus. Quand il regarde Jésus, il ne voit pas l'apparence. Et ça ressort dans cette parole. Et il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là, le Jésus qu'il voit, ce n'est pas le Jésus qui est juste sur la croix. Il voit un roi qui va revenir régner sur lui, sur cette terre. Quand tu vas revenir régner, souviens-toi de moi. Ça veut dire qu'il avait conscience que ce Jésus qui était crucifié était le Dieu qui avait promis qu'il allait revenir pour instaurer son règne. Il avait conscience que c'était ce Messie que les Juifs attendaient. Mais lui, il a compris que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas maintenant. Et vous avez vu la promesse de Jésus? Donc là, quelque part, il reconnaît que Jésus, et il place sa confiance, il remet sa vie entre ses mains. Souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Et ça, c'est la promesse la plus extraordinaire que j'aimerais que vous ayez quand vous sortiez de cette salle aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comment on peut faire pour être aujourd'hui avec Jésus dans le paradis? On revient sur les trois étapes. Reconnaître ton état de pécheur. Ça, c'est la confession. Je confesse que je suis un brigand comme l'autre. Alors, je n'ai pas fait autant de crimes. Mais devant Dieu, ma dette est infinie. Souvenez-vous du coup de poing. Ta dette est infinie parce que l'offense que tu as commise, ce n'est pas sur un être humain, c'est sur le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, celui qui est pur, parfait. Et donc là, tu dois déjà le confesser. La deuxième étape, c'est que tu dois reconnaître la justice parfaite de Dieu, qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de t'octroyer ce salut. Et bien sûr, placer ta confiance dans cette personne. Donc vous voyez, on retrouve ces trois éléments, la confession, la repentance et la foi, au travers d'une toute petite histoire. Mais cette petite histoire montre une chose, c'est que ce n'est pas nos œuvres qui peuvent nous sauver. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre, ce brigand, avec les pieds et les bras cloués sur une croix? Il n'aurait rien pu faire d'autre que confesser. Et c'est comme ça qu'on entre dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas avec nos œuvres. Parce que lui, il n'en avait pas beaucoup déjà. Il avait même beaucoup de casseroles, à vrai dire. Mais vous voyez, le moyen pour aller au ciel, c'est pas de faire des œuvres, c'est pas de faire du bien. Ça, tu le feras après. Mais en attendant, reconnais une chose, ton péché. Reconnais qui est Jésus, quelle est la solution. Et confie-toi en lui.